Merci Jérémy. Il est important que son choix redonné, parce qu'on peut l'oublier, surtout lorsque ce n'est pas le vôtre. Mais quand il l'a donné spontanément, le Seigneur m'a donné l'interprétation que je vous donnerai au milieu du message, parce qu'il faut d'abord présenter la pensée que Dieu m'a donnée pour pouvoir comprendre ce que Jérémy a reçu. Et comme il l'a dit à juste titre, vous allez pouvoir vous reconnaître chacun dans cette situation. Mais lorsque j'ai reçu ce message en début décembre, que je l'ai partagé donc à Alain et à travers Alain et l'équipe, c'est deux fois de suite dans la nuit, j'ai été réveillé par le Seigneur qui me disait « Rendez-vous dans la vallée des térébintes ». Bon, je connaissais à peu près ce que ça voulait dire, mais pourquoi ? Et puis, il m'a été donné aussi 1 Timothée 1, 18-19 qui est venu se greffer dans cette pensée. Et lorsque le Seigneur vous réveille deux fois de suite à la même heure, même dans la nuit, alors que je suis quelqu'un qui dort très bien, eh bien, j'ai dit « Seigneur, il y a quelque chose d'important » et c'était lié au tabernacle. Donc c'est clair que ce que je vais vous partager, ça nous appartient. Ça nous appartient. Bien que certaines choses peuvent être redonnées dans d'autres églises, mais là, elles nous appartiennent. Et donc je prends ma propre responsabilité devant Dieu de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et à vous, après, par rapport à la parole de Dieu, de vérifier ce que je vais vous donner. Et voilà. Donc, je voudrais d'abord commencer par le fait que, dans Apocalypse 2:7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, l'église du tabernacle, vous devez vous déboucher l'oreille. Et j'en fais partie, hein. Nous devons commencer à déboucher l'oreille. Le Saint-Esprit parle, mais on ne le comprend pas. Et une chose que le Seigneur m'a dite lorsque j'étais en train de prendre l'avion pour partir en Guyane, clairement il me dit, mon fils, les réseaux sociaux ont pris ma place. C'est le Saint-Esprit qui me disait ça. Clairement, les réseaux sociaux ont pris ma place. On croit plus les réseaux sociaux que ce que j'ai dit à travers ma parole. Si bien qu'aujourd'hui, et il est vrai, lorsqu'on s'entend parler, ou lorsqu'on entend parler, je parle des chrétiens, je ne parle pas des païens ou des inconvertis, ça ne m'en regarde pas. Mais lorsque j'entends parler des frères, des sœurs, il y a toujours un stress, une peur dans ce que les actualités disent. Alors que le Seigneur dit clairement, je suis avec vous tous les jours de votre vie et vous n'aurez rien à craindre. Même si vous entendez des bruits de guerre et tout, dans Matthieu 24, ce n'est pas encore la fin. Ces choses doivent venir. Mais je suis avec vous tous les jours de votre vie. Donc, lorsque vous entendez ces paroles et qu'elles ne pénètrent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a disparu au milieu de nous. Et c'est quand on n'entend plus le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on laisse la place à une autre parole. Si l'un se tait, quelqu'un d'autre prend la place. Et j'ai une autre parole tout de suite, parce que ce verset va être expliqué tout à la fin. Il est dit dans Acte 13, 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Je pense, et vous allez comprendre, que beaucoup vont être concernés dans cette prédication, et vont entendre la voix de Dieu, si ça s'ouvre, en disant « il est temps ». Et c'est le temps. Et la parole qui m'a été donnée, donc pendant la nuit, 1 Timothée, s'il te plaît, 1 Timothée 1, 18 à 19, entendez-la bien, elle est importante. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, c'est une constatation que Dieu met en lumière pour y apporter une solution. La parole de Dieu est toujours une solution qui est apportée dans un problème. Dieu n'a jamais réprimandé qui que ce soit. La parole est la parole de vérité. Donc elle vient pour mettre en évidence un mensonge. Donc il est dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. Et combien d'entre vous avaient reçu des prophéties ou des promesses? Des prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est important. il y a conscience et foi, c'est une des faiblesses que l'on a aujourd'hui. Je dis bien que l'on a aujourd'hui. Et je vais l'expliquer. Elle n'est pas venue parce qu'on a décidé de tourner le dos à Dieu. Non, non, ce n'est pas ça. Si vous aviez décidé de tourner le dos à Dieu, si j'avais décidé de tourner le dos à Dieu, nous ne serions pas là. Nous serions autre part. Donc si nous sommes là, c'est quand même quelque chose qui nous retient. Dans ce verset qui m'avait été donné, il y a le combat en gardant la foi. Le souci, c'est qu'on a beau combattre, on a beau se présenter devant l'adversaire, on a beau déclarer tout ce que vous voulez, vous pouvez proclamer tout ce que vous voulez, ce ne sera qu'une parole charnelle. Si la foi n'alimente pas cette parole. Vous pouvez prendre un verset de la Bible, vous l'attribuer, c'est une parole morte. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous pouvez déclarer tout ce que vous voulez, parce que certains le font, ça ne marche pas si l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette parole. C'est ça la parole de Dieu. Alors, on connaît ce verset d'Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire quelque chose qui ne te déséquilibre pas. Une ferme assurance, c'est-à-dire que vous êtes planté sur le rocher des siècles, aucune tornade, aucun ouragan, aucun tremblement de terre ne pourra t'enlever du lieu où tu es situé sur le rocher. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Eh bien, vous allez comprendre que la foi et l'espérance ont disparu au milieu de nous. En fait, ce n'est pas qu'elles ont quitté, on les a mis, on va dire, en bas. Elles n'apparaissent plus dans les priorités. La foi et l'espérance ne sont pas. Et je me souviens qu'un jour, j'en avais parlé à mon beau-frère à Philippe, il avait prêché sur le sel et sa saveur, et je lui ai dit, Philippe, le sel, la saveur, c'est l'espérance. Et il n'y a plus le goût de l'espérance. Parce que, encore une fois, vous pouvez dire, car je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur, et un avenir et d'espérance. Encore une fois, si vous connaissez l'actualité de ce verset que Jérémie donne, il parle à un peuple qui est en exil, déporté, qui est esclave. Et Dieu donne une promesse à un peuple qui est dans l'esclavage. Vous imaginez la situation. Il ne donne pas le verset à un peuple qui est tranquille, qui est serein. Non, la situation d'Israël, personne ne la voulait. Suite au péché des pères, les enfants ont hérité de tout ce qui avait été fait pendant des années. Ce n'est pas faute d'avoir corrigé le peuple par tous les prophètes ou les hommes de Dieu ou femmes de Dieu que Dieu avait mis sur le chemin d'Israël, mais il y a eu un entêtement et Dieu est un Dieu juste. Et il fallait que le peuple d'Israël passe par là. Ce n'est pas le sujet. Mais en attendant, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Le souci, c'est que notre impatience est en train d'éliminer notre persévérance. La foi, elle, a laissé la place à l'incrédulité. Et l'espérance a laissé la place au désespoir. Mais encore une fois, Dieu a toujours une solution. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est bon avec le Seigneur et nous ne laissera jamais tomber. Jamais, jamais tomber. J'ai relu Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. J'ai vu combien de fois le Seigneur était irrité contre son peuple. Il a fait un déballage de tous leurs péchés et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et toujours à la fin, il dit, mais s'il revient de tout son cœur, je serai toujours là. Mais quand vous voyez tout ce qu'il a fait, j'ai dit, mais Seigneur, la conscience qui est mis en porte-à-faux aujourd'hui, c'est que nous avons perdu la conscience de qui est Dieu. C'est la conscience que le Saint-Esprit a révélée. Quand il est venu habiter en nous et qu'il a réveillé notre esprit, il a fallu qu'il purifie notre conscience afin de générer des paroles de vie à notre âme, puisqu'il est venu sauver notre âme. Notre conscience, on a perdu qui est Dieu. Avons-nous conscience de qui est Dieu? Et avons-nous conscience de qui sommes-nous? Mais qui on est? Qui on est? Des pourceaux? Qui on est? Dieu dit, reprends conscience, mon fils, ma fille, qui es-tu? Qui je suis? Qui a créé toutes choses? Qui a permis que tu vives? Qui a mis la main sur toi et qui te garde chaque jour par tes anges? Qui? Cette conscience, on doit la retrouver. Pourquoi écoutes-tu le bruit, le murmure et les mensonges du monde et tu n'attribues rien qui me correspond? Cette conscience, il est dit, quelques-uns l'ont perdue. Et à cause de cette conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce que si vous n'avez plus, si je n'ai plus conscience que Dieu est Dieu, la foi n'existe plus. D'ailleurs, je vais vous dire, on ne lit pas, on ne délie pas la foi. Parce que c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, Hébreux 12. C'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire que Jésus, à travers nous, il dépose la foi. Tu l'acceptes, tu la crois, tu y crois et tu marches. Et il l'amène à la perfection, c'est-à-dire à une réalisation totale de quoi? De tout ce que tu espères. Tu ne peux pas espérer quelque chose sans la foi. Et tu ne pourras jamais dire « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi ». Si Jésus n'est pas dans ta conscience, cette foi est morte. Parce que pour amener la foi à la perfection, ça veut dire qu'en fait, montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi à travers mes œuvres. Beaucoup disent « je veux rentrer dans les œuvres préparées d'avance ». Sans la foi, tu n'y rentreras pas. Et donc, c'est ça que Jésus va amener à la perfection. Son œuvre à travers toi. Son œuvre. Mais la première œuvre qu'il fait dans ta vie, c'est que tu es conscient qu'il est Dieu. Je suis celui qui est. Et il n'y en a point d'autre. Et tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Une fois que vous avez appliqué ça, il y a la place pour rien d'autre. Essayez de chercher. Une fois que vous appliquez le premier commandement, il y a la place pour rien d'autre. Et là, vous avez une conscience de qui est Dieu et de qui nous sommes. Alors, conscience que Dieu est le Dieu de l'espérance, mais que sans la foi, l'espérance s'éteint, laissant la place au doute et à la peur et à l'incrédulité. C'est normal, hein ? Si Dieu se retire de votre vie, quelqu'un d'autre va prendre la place. Maintenant, on vient à cette fameuse vallée des térébintes. J'ai voulu insister sur la foi parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné à travers Timothée. Le naufrage selon la foi à cause d'une conscience qui n'est plus celle que nous devrons avoir et que nous devons avoir. Alors, dans cette vallée, dans la vallée des térébintes, il y a beaucoup de térébintes que l'on considère comme représentant la justice de Dieu. Si on voit Ésaïe 61, verset 3, les térébintes, c'est nous. Nous sommes des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour allez-y, pour servir à sa gloire, pas pour servir tout simplement. La conscience que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour servir à sa gloire, c'est ça une particularité de cette conscience. Des térébintes de la justice. Dieu nous a fait justice vis-à-vis de la condamnation qui nous était attribuée par rapport à l'ennemi, par rapport au péché. Et il nous a fait justice par son sang. Est-ce que nous en avons conscience lorsque l'ennemi vient nous condamner tout à nouveau, puisqu'il est constamment en train de nous accuser? Et nous, constamment, on est en train d'écouter l'accusation. Et constamment, on revient devant Dieu en disant « Est-ce que tu as encore un peu de sang pour moi ?» Éventuellement, est-ce que tu as encore une petite veine? C'est ça. Non. Une bonne fois pour toutes, nous sommes morts, mais nous sommes ressuscités. En avons-nous conscience? Avons-nous conscience qu'on est mort aux yeux du monde? Vous étiez mort par vos offenses, dit Éphésiens. Éphésiens dit, vous étiez mort par vos offenses. Mais par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes ressuscités. Nous étions, c'est le passé. Alors, dans cette vallée, Dieu nous a donné un rendez-vous. Et il nous a donné un rendez-vous aujourd'hui. Mais encore une fois, le juste vivra par la foi. Vous êtes juste aux yeux de Dieu. Prenez conscience que nous n'avons rien d'autre à faire que de vivre par la foi. D'ailleurs, on n'a pas d'autre possibilité. Je vais vous expliquer quelque chose. ou vous rappeler plutôt quelque chose. Je n'ai rien à expliquer. Je vais simplement rappeler des choses que Dieu nous a rappelées et nous a données. C'est pour ça que la conscience doit être purifiée par le Saint-Esprit. Nous rappeler certaines choses. Nous sommes des justes vis-à-vis de Dieu. Il nous voit juste. Cherchez pas à savoir si vous le méritez ou pas. Il nous voit juste. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu es juste, ma fille, mon fils, alors tu vivras par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Et dans d'autres traductions, par sa foi. Maintenant, il y a quelque chose qui est important. Qui aimerait être agréable à Dieu ? Tous. Vous aimeriez tous. Quelle est la seule chose qui rend en particulier Dieu agréable ? Dans votre vie, qu'est-ce qui permettrait que Dieu dise « Ah, mon fils, ma fille, je suis agréable, tu m'es agréable ?» L'obéissance ? Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, s'il vous plaît. Vous le connaissez par cœur ? Et combien de fois l'ennemi essaye de vous l'enlever ? Il est impossible. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas une autre issue de secours. Ne cherchez pas à venir ramper devant Dieu en mettant votre âme, en vous lamentant. Ne cherchez pas. Dieu dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi ? Parce que le fondement même de notre salut vient de la foi. C'est par grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, on mélange le mot foi avec le mot confiance. Et les gens disent, oh, j'ai la foi. Je lui dis, non, la foi, c'est spirituel. Ça vient de Dieu. Que tu peux avoir confiance au pilote d'avion que quand tu vas monter dans l'avion, il va t'amener là où il veut, tu as confiance en lui. Mais jamais tu diras, j'ai foi en cet homme. Ce n'est pas possible. Tu n'as foi qu'en Dieu, à travers cet homme. Si Dieu te dit, prie pour lui, parce que c'est sa première. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est là qu'est surprenant dans ce verset, que le Seigneur insistait, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et bien c'est là un des problèmes. On s'approche de Dieu sans croire. Entendez-moi bien. Entendez-moi bien. Quand on loue, quand on chante, quand on adore et quand on prie, on s'approche de Dieu. Mais réellement, est-ce que l'on croit ce que l'on dit, ce que l'on chante, ce que l'on fait ? Est-ce que c'est une vérité, une réalité ? Vous allez voir, tout est expliqué dans 1 Samuel 17. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dans Samuel 1, 17, vous allez voir que la foi est une obligation dans ce qui va se passer dans 1 Samuel 17. J'explique la situation. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ? Ça colle là. La situation de 1 Samuel 17, c'est qu'à un moment donné, je vous explique la situation. Le roi Saül avait perdu son onction. Il va en guerre. Tu peux m'ouvrir ? Tu peux m'ouvrir ? Merci Richard. Le roi Saül a perdu son onction. Il part en guerre. Donc il part en guerre charnellement. Vous m'entendez ? Ne partez pas au combat sans la foi. Donc Saül part en guerre charnellement et il embarque pas le peuple d'Israël, il embarque les soldats, une partie d'Israël. Et il arrive que dans cette vallée, il y a un homme qui s'appelle Goliath. Et il lance un défi à Israël. Et ce bonhomme, ce géant, il fait ça pendant 40 jours. Et plus exactement, il se présente devant Israël 79 fois. Parce que le 40e, parce que matin et soir. 40 jours, sauf que là, la situation, c'est le 40e jour, le matin. Et il parle. Et 1 Samuel 17, 8 à 10, il est dit, le Philistin s'arrêta, s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille. C'est important. il leur cria. Il ne parle pas à voix basse. Il y a cette notion de terreur, de peur. Il leur cria, pourquoi sortez-vous vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas esclave de Saül? Or, il sait ce qu'il dit, le Philistin. Il dit maintenant que Saül a perdu l'onction, vous n'êtes plus à l'abri de ma grâce, dit Dieu, vous êtes soumis à un homme qui m'a désobéi. Or, je ne suis plus là, par la foi. Et donc, choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre, qu'il me tue. Nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Et le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et que nous nous battions ensemble. Toute la situation de notre église, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et ton songe est là. Donc, il se trouve que Goliath lance un défi. Il dit, donnez-moi votre champion. Donnez-moi un champion et qu'il se batte. Donnez-moi un champion et qu'il se batte. Il y a une situation que je voudrais relever. Si on lit 1 Samuel 17-20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Ésaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Il poussait, il voulait le peuple s'entraider mutuellement, comment s'encourager. Il poussait des cris de guerre. Vous savez, quand nous on est censé pousser des cris de guerre, c'est parce que nous savons que nous allons aller au combat et on connaît notre adversaire. Mais là, il y avait une motivation, elle était tout à fait charnelle. Tout à fait charnelle. Ça faisait 40 jours, écoutez-moi bien, matin et soir, que l'armée de l'Éternel poussait des cris de guerre, mais que chaque fois que la bouche de Goliath s'ouvrait, il fuyait. On lit ça, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande peur, d'une grande crainte. 40 jours, pousse des cris de guerre. Et le Seigneur me dit, on vient tous les dimanches, ou chaque fois qu'il y a une réunion, un culte, on pousse des cris de guerre, mais dès que le Goliath ouvre la bouche ou dès qu'il se présente, on fuit. Écoutez-moi bien. C'est une réalité. Ce que je vous le dis, je la vis aussi. Quand j'ai été interpellé ces deux nuits de suite, c'est ça. Quand j'ai travaillé, je dis, Seigneur, on en est où? Moi, je suis fatigué de voir toujours ces hommes se lever contre nous, se lever contre moi et nous tenir en paralysie. Cette motivation charnelle, sans la foi, l'espérance de la victoire, disparaît laissant la place à la peur et au découragement. Culte après culte, on s'encourage. Mais dès que la voix de Goliath se fait entendre, c'est la panique. Et pourtant, le Seigneur nous a prévenus que nous sommes un peuple qui dérangeons. Mais qui dérangeons qui? Le monde? Non! Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les cieux. Nous ne dérangeons pas les incroyants, nous dérangeons ceux qui sont dans les cieux qui nous combattent. Goliath, là c'était un homme de 3 mètres de haut, mais au milieu de nous, c'est un esprit sous différentes formes. On va voir. Maintenant, je vous pose une question toute simple. Pourquoi Goliath n'est pas intervenu tout de suite avec son armée pour anéantir Israël? Dès la première fois, l'armée s'est barrée en courant. Pourquoi il n'est pas venu assujettir Israël? Vous vous êtes posé la question? Pourquoi? Vous avez un adversaire, vous êtes sur le ring, vous allez vous battre, combat de boxe. Vous voyez l'adversaire, vous partez en courant. Ça y est, victoire. Or, le défi, il est que si jamais je gagne, vous êtes mes esclaves. Vous vous rendez compte? La répercussion éternelle qu'il pouvait y avoir ce jour-là. Vous savez que ce jour-là, il y aurait pu avoir un choix et nous serions restés esclaves de Satan. Vous avez compris, non, le passage là? C'est-à-dire que si jamais un homme qui n'était pas loin venait affronter Goliath et qu'il perdait, c'était un truc éternel. Vous m'entendez là? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je vais répéter. Si jamais un de l'armée d'Israël combattait et qu'il perdait, aujourd'hui nous serions esclaves des Philistins. Parce que c'était un défi d'esprit à esprit, là. Nous, on dit c'est homme à homme, mais c'est le problème de la lecture de la parole. C'est que nous lisons la parole charnellement. Or, si nous l'en lisons par l'esprit, nous comprenons que Goliath ne voulait pas détruire Israël comme ça. Il voulait mettre une empreinte spirituelle à vie, c'est-à-dire, vous deviendrez nos esclaves. Nos esclaves, vous deviendrez. C'est pour ça qu'il fuyait. Mais pourquoi? Il a attendu 40 jours. C'est parce que Dieu avait sa pensée. C'est Dieu qui a permis qu'il fallait attendre 40 jours. Comprenez-moi bien. Le temps, pour nous, 40 jours, ce n'est pas 40 jours selon Dieu. Bien que le chiffre 40 soit important, parce que c'est au bout du 40e jour que Jésus a parlé à Satan et qu'il lui a cloué le bec par la parole. C'est au bout de 40 années dans le désert que le peuple est sorti traverser le Jourdain. 40 ans après, Isaac a dû attendre que Rebecca tombe enceinte pour avoir Jacob. 40 ans, dans l'esprit de Dieu, il y avait un moment opportun. Entendez-moi bien, c'est Dieu qui a voulu et qui a permis qu'il fallait attendre 40 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit bonhomme qui s'appelait David et qui, à travers la bouche de son père, va voir un peu ce qui se passe chez les frangins pour leur amener un peu à manger. Et il arrive et il entend. Vous savez que quand il a été indigné, David, de ce qu'il a entendu, vous savez quelle a été sa première opposition? Qui a été le premier opposant à David quand il s'est indigné devant cet homme? Qui a été le premier opposant? Un membre de sa famille, son frère aîné. Écoutez, un membre de sa famille, au milieu de nous, il lui dit, tu n'es qu'un orgueilleux, David, tu n'es qu'un orgueilleux, tu as laissé les quelques brebis du père. Or, il ne connaissait rien et il ne savait rien de la raison de sa venue. Le David aurait pu dire, oh, si je n'étais pas là, tu n'aurais pas eu ni un morceau de pain ni du fromage. Alors, commence par terre. Mais il n'était pas guerrier aux yeux de l'armée de l'Éternel. C'était un jeune homme. Il vient. Dieu, aujourd'hui, il cherche des champions. Et il les a trouvés. Et ils sont au milieu de nous. C'est ça qu'il faut que vous commenciez à comprendre. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, Jérémie. Tout viendra au moment où je t'expliquerai ton songe. Il cherche des champions de Dieu, ayant la conscience de qui est Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que fait David? Quand il commence à se justifier devant le roi Saül, il lui dit, mais moi, je t'ai pas attendu, roi, quand je gardais les quelques brebis. C'est quoi? Quand vous faites du bien autour de vous pour quelques brebis, je parle de la famille de Dieu. Eh bien, si un lion ou un ours venait pour essayer de me voler mon frère ou ma sœur, moi, je lui ai arraché sa gueule. Je lui défonçais la tête. Il avait déjà une indignation, une hardiesse. Il avait pris conscience qui était Dieu et qui était l'ennemi. Il savait dans quel camp il était. Il était jeune. Personne ne l'avait éduqué. Personne ne l'avait enseigné à se battre. Parce qu'il savait que seul le Saint-Esprit lui donnait l'enseignement exact qu'il devait entendre. Il n'avait pas besoin des réseaux sociaux pour taper « Comment combattre le bon combat de la foi ?» La seule chose que te dit Seigneur, rentre dans ta chambre et je te parlerai et je t'enseignerai. Cette intimité, David l'avait. Nous, on ne l'a pas. Nous, on ne l'a pas. David, il était seul et il ne disait pas, ils m'ont abandonné, ils sont tous partis, moi je ne fais rien. Non, il devait garder ses brebis. Il faisait ce que Dieu lui a demandé par rapport à la foi qu'il lui avait donnée et à cette espérance que si un lion venait ou un ours venait, il le terrorisait. Moi, à la place des lions et des ours, je change de chemin lorsque je vois David. Donc, il était là, ce champion. Aujourd'hui, Dieu cherche des champions de la foi pour accomplir sa parole afin d'amener les captifs à l'obéissance de la foi, tous les païens. On voit ça dans 1 Romains 5 à 6. Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes des champions. Pourquoi ? Il y a encore une raison. Il y a pour le perfectionnement des saints, pour l'Église, mais il y a aussi quelque chose qu'on se projette dehors. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, donc au nom de Jésus, à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Attention, il y a une différence entre appelé et élu. Vous en faites partie, vous aussi. Faites partie de quoi ? De ceux qui obéissent par la foi. Tout à l'heure, on me parlait d'obéissance. La foi est toujours suivie d'obéissance. Ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Tu peux obéir par obligation sans la foi. Mais quand tu as la foi, tu obéis par principe. Parce que tu as une conscience qui sait qui te parle. Donc, ce champion s'appelle David. Et il a une particularité, cet homme. Et là, j'aime ça. David, ou Davidette, si on peut dire. Femme ou homme. Cet homme, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et pareil, alors que j'allais... Vous savez, quand vous attendez les avions qui tardent à venir, ou que vous êtes tout seul dans l'aéroport, vous n'avez qu'une chose à faire. C'est ou entendre les enfants qui courent, qui font un bins là au milieu, on dirait qu'ils sont dans leur parc. Vous savez, quand vous prenez attendre l'avion, ou vous entendez râler, les gens, ah, jamais l'avion est en retard, ou vous commencez à prier. Et le Saint-Esprit qui me dit, mon fils, il y a beaucoup d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu sur la terre, mais il y a peu d'hommes et de femmes de Dieu selon mon cœur. Je répète, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais peu d'hommes de Dieu selon mon cœur. J'ai chassé les démons en ton nom, prophétisé en ton nom, guéri les malades en ton nom, et le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Par contre, la particularité de David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et ça, personne ne pourra lui enlever. C'est pour ça qu'on dit, dans les rois, il était droit comme David. Il avait le cœur de David. Le cœur selon le cœur de Dieu. C'est une parole fondamentale. Si tu es conscient que tu es fils ou fille de Dieu, alors prosterne-toi devant sa face et demande qu'il change ton cœur. Vous savez, la promesse que Dieu fait à Ézéchiel, il dit, je te donnerai un cœur de nouveau et un esprit nouveau, je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui est malléable, disponible, disposé, prêt à obéir. Et donc, voilà ce champion que Dieu cherche. Dieu connaissait, David connaissait Dieu et s'appuyait sur lui par la foi. C'est pour cela qu'il fut indigné d'entendre les paroles de malédiction données par Goliath. Vous savez, à ce moment-là, quand David s'approche, toute l'armée d'Israël devait être contente, hein, mais ils étaient inconscients. Écoutez-moi bien. Ils étaient inconscients parce que David n'était pas un guerrier comme l'était. D'ailleurs, c'est même la remarque de Saül, lui dit, mais t'es un jeune, tu n'es pas un guerrier. Donc, il constate qu'il n'a aucune capacité charnelle, conformément au monde, conformément à l'intelligence humaine. On dit, mais non, tu ne sais pas parler. Non, tu bégayes, Moïse. Non, tu n'as pas fait d'école. Non, tu n'as pas fait d'études bibliques. Non, tu n'as pas fait de cursus. Non, tu n'as pas fait ça. Non, il faut de l'expérience. Tu n'as pas encore les cheveux blancs. Donc, on va réduire à néant toutes les forces que quelqu'un a de la part de Dieu. Et David dit, mais t'inquiète, roi Saül, moi, tout ce que tu me dis, ça ne me sert à rien. Moi, de toute façon, les lions et les ours me craignent. Alors, tu vas voir que celui-là, c'est la même. Ça sera pareil. Et donc, vous savez ce que fait Goliath ? Il maudit David par ses propres dieux. C'est-à-dire qu'il va invoquer toute la série des dieux pour vous maudire, pour nous maudire. Alors quand on va commencer à entendre les malédictions qui tombent sur nous, on commence à flipper. Qu'est-ce que fait David? Est-ce qu'il se démonte? On dit, ah bon? Toi, tu viens avec tes dieux, toi. Toi, tu viens avec les Baal et Astarté et compagnie. Toi, tu viens avec le roi Dagon, avec le dieu Dagon, parce qu'à l'époque, c'était leur dieu, qui s'est d'ailleurs cassé la figure face en avant devant l'arche de l'Éternel. C'est une parenthèse. Quand on a l'esprit de Dieu, tous les dieux contraires se prosternent devant Dieu. Ça, c'est l'histoire de quand ils ont récupéré l'arche de Dieu et qu'ils l'ont amenée dans le temple de Dagon. Et la statue, une fois, s'est prosternée, la deuxième fois, elle s'est éclatée en mille morceaux. Donc voilà, si nous avons conscience de qui on est, voilà comment doit nous voir les esprits contraires. Et là, il répond, j'aime, tu marches contre moi, c'est Samuel 1, 17, 42, 47, mais je prends, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. C'est important, ces trois, je vais en venir. Et je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Tu as insulté, pas Dieu, tu as insulté mes frères et sœurs. Vous m'entendez? Il parle de l'armée de l'Éternel que tu as insulté. Il n'est pas parlé de Dieu. Goliath ne peut pas se permettre d'insulter Dieu. Satan n'a jamais insulté Dieu. Attention, Satan sait qui est Dieu. Par contre, il dit, si je ne peux pas m'en prendre à Dieu, je vais m'en prendre à ses enfants. Et c'est l'armée de l'Éternel qui a été insultée, c'est-à-dire nous. C'est nous qui avons été insultés. C'est pour ça que David a été irrité. Il a dit, mais tu es en train de dire, et tu maudis mes frères et sœurs. Tu es en train de maudire tous mes frères et sœurs de l'église du tabernacle. Mais t'es qui toi? Et il lui dit, de la même manière que tu voulais me donner aux oiseaux des cieux, c'est toi qui vas atterrir. Et réponds par réponse. Et toute cette multitude sera que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est déjà passé. C'est ce qui s'est déjà passé dans les cieux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est la pensée de Dieu. Parce que c'est le rendez-vous que nous avons dans la vallée des térébintes. Parce que Dieu nous fait justice et que nous le servirons pour sa gloire. Alors, le rêve de Jérémie, quand il a commencé, il a dit, il était dans une entreprise. Et il travaillait avec un ouvrier. Dieu dit, je ne veux pas d'entreprise au sein de mon église. Je veux une famille de Dieu. Pourquoi? Parce que la différence entre une famille et une entreprise travaille par devoir, alors qu'une famille travaille par vouloir. Et vous ne me servez pas par devoir, dit le Seigneur, vous me servez par vouloir. C'est ça une bonne conscience. C'est pour cela que dans ton rêve, c'était l'église du tabernacle qui était représentée comme une entreprise. Or, nous sommes le temple du Saint-Esprit, le corps de Christ, d'où le Saint-Esprit habite. Sauf que si nous travaillons simplement parce que nous sommes obligés de servir Dieu, si nous rentrons dans une obligation du service pour Dieu, de peur que nous ne soyons pas bénis, alors nous n'avons rien compris de l'amour de Dieu. Alors nous n'avons rien compris de l'amour de Dieu. Rien de rien de rien. Dieu n'attend rien de nous. Car celui qui l'adore, l'adorera en esprit en vérité. C'est tout. Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore en esprit en vérité, simplement. Il n'attend pas des prodiges de notre part, puisque c'est lui qui les fait à travers nous. Vous savez ce que Dieu reprochait à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, la première église? Il lui a dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Parce qu'en fait, au début, il lui a fait tout un éloge de tout ce qu'il faisait. Il servait Dieu, mais il servait par devoir. Au début, on est zélé, on sort par vouloir. Puis après, on sert par devoir. De peur que nous ne sommes plus dans les petits papiers de Jésus. Alors, oh, je n'ai pas jeûné, ça fait combien de temps? Vite, 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 programmons un jeûne de peur que Dieu nous sanctionne. Ça, je l'ai entendu X fois, pas sous une forme directe, mais parce qu'il fallait, pour une raison XY. Alors, des fois, je demande aux gens, pourquoi tu jeûnes? Je ne sais pas, mais je jeûne. Les rendez-vous avec Dieu, c'est constamment. Je ne peux pas passer, comme disait Alain, à un moment donné, sans dire, Seigneur, je suis vivant parce que tu m'as rendu vivant. Et je sais que tu es en moi. Il me faut ce temps avec Dieu. Il me faut cette communion. Il faut que ma conscience soit purifiée. J'aime à me souvenir que Dieu est en moi et qu'il prend plaisir à vivre en moi. J'aime ces moments intimes avec Dieu. Même si ma pensée vient me dire, oh, n'oublie pas de téléphoner à lui ou à tel. Prends ton temps. Prends ton temps. Mais Dieu Mais Dieu ne t'en voudra jamais. Il ne peut pas t'en vouloir. Ce n'est pas un attribut. Sa particularité, c'est qu'il est amour. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas changer. Donc, dans ce rêve, une fois que Jérémie savait qu'il avait un rendez-vous à 15h pour un entretien pour une personne, il est midi. Midi, temps de pause. En fait, c'est temps de pause, de relation avec Dieu, de nourriture spirituelle. En fait, toi, tu l'as traduit, bien sûr, dans ton songe, parce que c'est le moment de pause pour manger à midi, c'est normal. Mais dans l'esprit, c'est le moment où, eh bien, tu vas manger cette nourriture avec Dieu. C'est-à-dire, tu te présentes devant la face de Dieu. Mais c'est à ce moment-là que l'ennemi va fermer ta porte. Il va t'empêcher. Tant que tu travailles avec devoir, fais tout ce que tu veux. Fais, donne des ordres, fais ceci, fais cela et tout. Ça n'aboutit pas, il n'y a pas de résultat. Mais au moment où Jérémie a décidé d'aller se nourrir et qu'il voulait être dans la tranquillité, l'église, elle est là, il est monté par l'escalier. Quand il a raconté ça, j'ai tout de suite vu l'église, l'escalier qui monte dans son bureau en haut. C'est devenu spontanément l'église. Et il n'y a qu'une seule entrée. Et il s'attendait à être tranquille. Mais l'ennemi ne vous laissera jamais tranquille. Surtout au moment où tu veux te ressourcer avec Dieu. C'est là où il va commencer à t'enquiquiner et que les pensées mauvaises viennent. Vous avez déjà vu des pensées contraires venir quand vous travaillez ? Ils viennent comme par hasard quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu. Suis-je digne de me retrouver devant ta face, Seigneur, parce qu'il y a 5 minutes, j'ai envoyé balader ma femme ? Il dit, Seigneur, il dit, c'est pas un souci. Repends-toi, tu vas la voir, et après, pour l'instant, tu es avec moi. Tu vas faire ton truc après. Pour l'instant, tu es avec moi. Je t'ai donné un rendez-vous dans la vallée des térébintes. Et je vais t'apprendre à combattre le bon combat par la foi. Et donc, quand Jérémie s'est retrouvé, qu'est-ce qu'il arrive ? Il voit 4 personnes. Pas une, 4. Il dit, tiens, qu'est-ce que vous faites là ? Bien, et ils ont pris la place de gouverneur. Normalement, c'était toi, le chef d'entreprise, et ils t'ont pris ta place. Et ils étaient comme chez eux. Esprit familier. Vous savez ce que c'est qu'un esprit familier ? C'est quand vous donnez accès à un esprit contraire et que vous commencez à faire du copinage. D'accord ? Bon, Dieu dit, tu n'adoreras aucune autre personne. Mais, et tu ne laisses entrer personne. Et là, il y avait 4 personnes. Alors, ça ne veut pas dire que Jérémie leur a laissé entrer. Il avait donné rendez-vous à quelqu'un pour une embauche. Et ce n'était pas à cette heure-là. Or, l'ennemi vient toujours quand on ne l'attend pas. Il ne vient pas frapper à la porte. Il n'est pas diplomate comme Jésus qui frappe à la porte. Hein. Il vient et il n'est pas venu tout seul, ils sont venus à 4. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Quand la maison est nettoyée, le démon part et revient à plusieurs. Je pèse mes mots, hein. Je ne dis pas qu'il y a des démons. Hein. Mais la situation, c'est qu'à un moment donné, un homme s'est levé et il a été paralysé. Pendant un temps, tu as été paralysé, surpris. Et ne pouvait rien dire. Or, cette paralysie, elle est authentique comme Goliath parlait. Quand Goliath a parlé, au début, il y avait des cris de guerre, tout allait bien, mais dès que Goliath s'est présenté, le fait qu'il se présente, déjà, tu as été déstabilisé, parce que tu as dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Puis quand il a commencé à parler, qu'il a commencé à adorer son Dieu, et vous remarquez que ce n'est pas anodin, Jéhovah, parce que pour certains, on peut faire un amalgame. Ce n'est pas anodin que tu aies dit Jéhovah. Tu peux faire un amalgame, mais il prie Dieu. Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Rapha, c'est biblique. Mais il a fallu qu'il discerne. Et c'est là que Dieu dit, mon champion va discerner par mon onction ce qui se passe dans l'église du tabernacle. Mes champions vont discerner qui est Dieu et qui ne l'est pas. Mes champions auront une conscience pure et ils vont commencer à se lever et à ne pas fuir comme l'a fait David parce qu'il était loin de Dieu. Et c'est ça l'onction. Cette onction a fait que David s'est levé et à un moment donné, il est venu cette irritation devant toi lorsque cette personne a voulu dire « Mais on est copains, Jérémie, on prie le même Dieu !» Parce que ce que tu avais dit la dimanche dernier, il disait, mais t'es mon frère. Répète. Tu as dit, voilà, cet homme a dit, mais tu es mon frère. Vous entendez ? Tu es mon frère, Jérémie. On prie Jéhovah. Et il y a à boire et à manger hein, sur YouTube et compagnie. Hein. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Ça fait penser à une pub, ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et l'indignation est venue, la même indignation qui est venue en ton cœur, Jérémie. Et je te dis, cette indignation, elle est là, parce que tu n'as pas donné la suite. L'indignation, elle est là, telle qu'un David, parce que toi, c'est ce David au milieu de nous. Il faut qu'il y en ait un qui montre l'exemple. Il va falloir que tu te lèves. Il y en a un qui montre l'exemple. Il faut entraîner le reste. Et cette indignation est venue, il a dit, ah, toi tu te lèves avec l'épée, le javelot et compagnie, mais moi je vais me lever autrement. Et quand tu t'as commencé à être indigné, ils ont fui en courant, parce que l'esprit de Dieu, quand il est présent, l'esprit mauvais ne résiste pas. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Et maintenant, j'explique simplement, rapidement, parce que, il est dit, je suis à la fin là, t'inquiète. Il est dit, il est venu avec l'épée, la lance et le javelot. Et là, j'ai demandé, traduis-moi, Seigneur, qu'est-ce que représente l'épée, la lance et le javelot? Et vous allez voir. Quand Goliath s'est présenté à nous, quand les Goliath se présentent dans votre vie, quand Goliath se présente personnellement, en tête à tête devant toi, il vient soit avec l'épée, et l'épée est utilisée pour le corps à corps. Une épée, il faut se battre corps à corps. Tac, tac, tac. Et l'épée de Goliath est expliqué par le mensonge et la tromperie. Frère, t'es mon frère. Mensonge et tromperie. Mensonge et tromperie, non. Non, 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 non. Non. On n'est pas de la même famille. Si l'ennemi vient avec l'épée, or, quelle est la meilleure réponse? Épée à épée. L'épée de la parole. L'épée de la parole, sauf que à un moment donné, l'épée était restée dans ton fourreau, mais le Saint-Esprit en toi a été indigné. Et qui c'est qui est venu attaquer ce Goliath? Il est venu attaquer l'armée de l'Éternel, toi, Jérémie. Et s'il t'attaque, toi, chef d'entreprise, il attaque tout le reste. Tu comprends le domino? Donc, Jérémie a répondu par la parole. Maintenant, il peut venir aussi par la lance. Et la lance, Dieu me dit, est utilisée pour déstabiliser l'adversaire à une certaine distance. Vous savez qu'une lance, c'est long de 2 mètres. Donc, si vous n'avez qu'une seule épée, vous ne pouvez pas me toucher, moi qui ai une lance. Vous ne pouvez pas me toucher. Donc, qu'est-ce qui empêche la parole de venir percuter l'ennemi? Parce que vous répondez avec l'épée, mais si l'épée de la parole ne percute pas, c'est qu'il y a quelque chose. L'épée ne peut pas rentrer en vigueur. Donc, la lance est là pour déstabiliser l'adversaire. C'est l'incrédulité et l'idolâtrie afin de t'amener dans l'orgueil. L'incrédulité, si tu n'as pas la foi, tout ce que dit la parole de Dieu pour toi n'a pas de sens. Donc, tu peux proclamer, déclarer, c'est ce que je disais, tu peux vociférer, dire tout ce que tu veux de la parole de Dieu, si ce n'est pas lié à la foi, ça n'aura aucun impact sur l'adversaire. Aucun impact. Parce qu'il y a cette forme d'incrédulité. Si tu t'approches de Dieu, il faut que tu crois qu'il existe. Ce n'est pas la peine de t'approcher de Dieu si tu n'y crois pas. Ce n'est pas la peine de dire « Au nom de Jésus, sois guéri » si tu n'y crois pas. Ce n'est pas la peine de dire « Le Seigneur a mis de l'espérance dans mon cœur » si tu n'y crois pas. Et il y a de l'idolâtrie. Vous savez ce que c'est que l'idolâtrie? C'est le fait simplement de mettre quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Vous savez, vous pouvez venir, imaginons qu'on ait une splendide, et c'est mon rêve, une splendide louange qui entraîne, dès qu'on rentre, tout le monde est saisi par l'esprit et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes viendront de l'extérieur. Vous savez pourquoi? Ils diront, voilà, au tabernacle, il y a une super louange. Ils ne viendront pas pour Christ. Ils ne viendront pas pour Jésus. Oh, il y a un prédicateur qui prêche, il a un don de guérison. Ils viendront pour qui? Pour le prédicateur. Je suis désolé. Il faut appeler un chat à chat, c'est une vérité. Ils ne viennent pas pour Jésus. Parce que qui fait l'œuvre à travers cet homme? C'est Jésus. Qui fait l'œuvre à travers les louangeurs? C'est Christ. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est qu'inconsciemment, parce que notre conscience n'a pas été purifiée, on va honorer quelqu'un au-delà de ce qu'il mérite. Alors oui, il faut honorer. Mais honorer celui qui est dans la personne. Parce que le seul qui est digne de louange et d'honneur et d'adoration, d'honneur et d'adoration, c'est Christ en chacun d'entre nous. Encore une fois, si tu sers par devoir, tu recevras une récompense humaine. Mais si tu sers par volonté pour glorifier Dieu, alors tu as une récompense éternelle. Et le javelot est utilisé comme nous, sans que nous sachions d'où il vient. Vous savez qu'un javelot, c'est quelque chose qu'on envoie de très loin. Donc les gens, ne s'y attendent jamais. C'est ça le plus grave. C'est le danger, mes frères et sœurs. Si jamais tu te retrouves là-dedans, il y a une repentance qui est là. Le javelot est utilisé sans que nous sachions d'où vient l'attaque. C'est lié à la tolérance et le compromis. Si je dis ça, c'est qu'au milieu de nous, il y a de la tolérance et des compromis, tout simplement. Et là, vous pouvez demander « Dieu, je t'adore, Dieu, je t'aime ». Mais non, il y a de la tolérance et des compromis. Qu'est-ce qu'un compromis ? C'est quand tu fais une alliance avec quelqu'un, pour qu'on te laisse en paix. Il y avait un roi qui s'appelait Ozias, si mes souvenirs sont bons, et ce roi, par la grâce de Dieu, avait détruit toutes les idoles, il avait en fait remis le culte au Seigneur. Tout allait bien tant qu'il était avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait un père, un sacrificateur, je ne me rappelle plus de son nom, qui le conseillait. À la mort de cet homme, plus de conseil. Et donc il prend ses habitudes charnelles. Et qu'est-ce qu'il fait ? Comme il n'a plus le support de cet homme, vous savez, l'idolâtrie, c'est ça, hein ? Il n'était plus là, l'homme. Eh bien, il est allé demander le secours des Égyptiens. Et Dieu a dit, et moi ? Mais qui ? Qui t'a béni pendant, jusqu'à présent ? C'est moi. Maintenant que ton père est parti, ton père spirituel est parti, ça y est, tu fais n'importe quoi, tu vas chercher les Égyptiens qui sont dans le monde. C'est un compromis, ça. C'est un compromis. La tolérance, c'est quoi la tolérance ? Bon, Seigneur, je ne peux pas faire autrement. Dans telle situation, si, il y a toujours une possibilité en priant pour Dieu. Il y a toujours une possibilité en priant pour Dieu. Moi, je le dis, je vais peut-être choquer. Je n'ai pas d'enfant, mais je pense que je l'aurais fait. Si, dans votre famille, vous avez un enfant qui n'est pas chrétien, qui n'est pas majeur et qui vient avec sa petite copine et qui reste toute la nuit, vous le permettez. Désolé, c'est une tolérance. Oui, mais si je le ferme, il va fuir. Qui fuit ? Il reviendra. C'est un fils prodigue. Mais si tu laisses ce compromis, cette tolérance, et que tu permets à l'ennemi de rentrer chez toi par l'intermédiaire d'une situation qui n'est pas juste, qu'est-ce que tu fais ? Où est ton témoignage selon Christ ? Où est ton témoignage ? Ce n'est pas mettre ton enfant dehors, c'est le protéger. Mon fils, ici, c'est la maison du Seigneur. Je ne tolère pas le péché. C'est tout. Après, oui, mais on va le perdre. Non, non, non. C'est que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est ça. Tu n'as pas la foi. Parce que si tu as remis ton fils ou ta fille entre les mains de Dieu, Dieu le garde. Et il faut qu'il vive ses habits. Certaines choses. Mais dans ta maison, c'est où ta maison, c'est la maison du Seigneur, ou elle ne l'est pas. Mais la moitié, non. Donc, Jacques 4, 6, 8, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez ce que c'est qu'un orgueilleux ? C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est dans l'erreur par rapport à Dieu. C'est tout. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas que Dieu est en train de le corriger. Il dit non. Moi, je pense que tout va bien. Non, non, ça va. Regardez, je suis béni, je ressuscite les morts et je guéris les malades. Pourquoi devrais-je me repentir ? Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quel est l'instrument qui peut contrer l'épée, la lance et le javelot ? Quel est l'instrument qui peut contrecarrer l'épée, la lance et le javelot ? Qu'est-ce qui peut enrayer tous les traits enflammés du malin ? Le bouclier. Vous ne pouvez peut-être pas avoir d'épée, ni de répondant, mais si vous avez le bouclier de la foi, l'épée, la lance et le javelot vont se fracasser contre le bouclier. C'est pour ça qu'il dit, prenez par-dessus tout. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas les autres, je voudrais, dit le Seigneur, que vous ayez au moins le bouclier de la foi. Au moins, prenez par-dessus tout. Alors c'est un jeu de mots. Ça veut dire, si vous avez le choix, au moins celui-là, et par-dessus, pour vous couvrir. C'est une couverture, la foi. Vous ne pouvez pas combattre sans la foi. Combat, le bon combat de la foi. Je reviens à Timothée que je vous ai lu. Parce que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ils vont quand même au combat. sans l'onction. Et quand ils ont vu Goliath, terminares. Et maintenant, je finis et on passe aux choses sérieuses. Il y a un truc qui m'a terrifié. Et c'est toi, mon Jérémie, dans le bon sens du terme. On va lire, écoutez-moi bien, 1 Samuel 17, 55 à 58. Merveilleuse est ta parole. Quand vous lisez la parole selon Dieu et que vous dites, Saint-Esprit, je ne veux pas faire un verset de plus si je n'ai pas compris ce verset, dis-moi ce qui se passe, surtout si c'est lui qui vous envoie dans cette parole. Si c'est vous qui ouvrez la Bible au hasard, c'est une chose. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, qui est son général, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répond, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. » Bon, je sais pour qui c'est ce gras. Hein. Alors, il lui dit, « Informe-toi donc de savoir de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. Et David tenait à la main la tête du Philistin. Ça, c'est super classe. Il vient, c'est son trophée. Hein. Vous allez voir que c'est important, ça. Et Saül lui dit, « Mais de qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur, Esaïe Bethléemite. » Alors, je vais vous dire quelque chose. Avant qu'il ne rentre en campagne pour faire la guerre, quelle était la fonction de David vis-à-vis de Saül? S'il vous plaît, ne me la faites pas celle-ci. Quelle était la fonction de David par rapport à Saül avant qu'on se retrouve dans 1 Samuel 17? Il jouait de l'harpe. Et pourquoi il jouait de l'harpe? Saül avait perdu l'onction. Et donc, Dieu préparait son champion. Bien avant, dans le ventre de ta mère, Dieu avait commencé à te préparer comme un champion ou une championne. Et il commençait à t'équiper sans que tu le saches. Et donc, il jouait la harpe, parce que quand il jouait la harpe, l'esprit mauvais se barrait. Écoutez-moi bien, si moi je suis possédé et que Jeanne vient avec une belle parole et qu'elle me tranquillise et me donne la paix, vous croyez que j'allais l'oublier, elle? Vous comprenez d'où je veux en venir? Est-ce que vous pensez que celui qui me fait du bien, je vais l'oublier? Et en plus, il sait qu'il s'appelle David et il sait qu'il vient d'Ésaïe parce qu'il lui dit au préalable, il me faut trouver quelqu'un qui me fasse du bien. Quelqu'un lui dit, moi je connais dans la famille d'Ésaïe un jeune homme, talalalala. Et David et le roi Saül lui dit, amenez-moi-le. Donc quand le gars il arrive, il lui a pas dit, fais ton boulot. Alors David, merci. Alors il paraît que tu joues de l'harpe, que tu es ouin et tout. Et il le voit. Et là, c'est la parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Parce qu'un champion de Dieu qui est loin est différent qu'un champion qui n'est pas loin. On va voir la différence tout de suite entre un champion selon le cœur de Dieu et un champion qui n'a pas le cœur de Dieu. On va voir pourquoi. Parce que David n'était plus reconnu. Mais c'est qui ce jeune homme? C'est-à-dire qu'au milieu de vous, au milieu de nous, des loins vont se lever. Et moi-même, je ne vais pas vous reconnaître. Je lui dis, mais c'est toi, Pascal? C'est toi, Pascal? Mais c'est qui? T'es le fils de qui? T'es la fille de qui? T'es la fille de qui? C'est la question que Dieu vous pose. Anna, c'est toi? Mais c'est toi qui entraîne le peuple avec tant de ferveur, à tes côtés, avec tes sœurs? Mais je ne vous reconnais plus. Mais vous êtes qui? Mais elle est où? Il est où mon Romain? Ben, Romain, moi j'avais pris une... Je te voyais comme ci, je te voyais comme ça. Mais c'est pas toi Romain. Comment ça se fait que t'as changé? T'as de l'audace, t'as de l'hardiesse. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu crie, où sont les fils de Dieu? Où sont les fils du royaume? Où sont les oints de Dieu? Où sont ceux qui manifestent Dieu avec puissance, qui manifestent mon royaume avec puissance? Où sont-ils? Et là, le Saint-Esprit commence à parler dans vos cœurs. Je t'ai mis à part dès ta jeunesse. Je t'ai oint, je t'ai mis mon esprit, je t'ai mis les capacités, les dons, j'ai mis tout ce qu'il fallait en toi. Je sais que tu as des faiblesses, je sais que tu as des manquements, je sais que tu as peur, mais je suis là et je veux te donner une hardiesse nouvelle, une indignation devant les Goliaths qui se lèvent. Ce n'est ni l'épée, ni la fronde, ni le javelot, ni la lance qui te feront peur, parce que tu vas les briser maintenant. Tu vas prendre, comme l'a fait David, la propre épée pour tuer avec sa propre épée Goliath. C'est ça que le Seigneur dit. Et il dit dans Ésaïe 6, verset 8, et là, c'est merveilleux, parce qu'il y a encore une révélation nouvelle de cette parole d'Ésaïe 6, 8, que vous connaissez tous. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous dans la vallée des térébintes? Alors, bien sûr que là, dans l'Ancien Testament, quand il était parlé à Jésus, à Ésaïe, qui enverrai-je? Singulier. Et qui marchera pour nous? Pluriel. Bien sûr que pour Israël, c'était Dieu. Mais nous, c'est la Trinité qui parle. Mais cette Trinité, elle est où? Elle est en nous. Elle est en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai reçu une révélation, elle m'appartient, j'en fais ce que j'en veux. Mais elle me fait du bien. Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour l'Église? Qui marchera pour nous? Qui sera le champion? Qui marchera pour nous, dit Seigneur? Qui enverrai-je? Le Saint-Esprit cherche. Et qui marchera pour l'Église, corps de Christ, dont j'en suis, je fais partie, dit le Seigneur. Il est la tête. Il fait partie de l'Église, corps de Christ. Il est la tête. En sommes-nous encore conscients? La conscience, s'il est la tête, c'est que toutes pensées contraires sont amenées captives. À qui? À l'obéissance du Christ qui est ta tête. C'est ta tête. Donc tu dis, Seigneur, filtre-moi tout ce qui ne vient pas de toi et envoie-moi. Et il est allé. Et ce matin, je finis et je dis dans votre cœur, qui enverrai-je et qui marchera pour cette église, dit le Seigneur. Qui enverrai-je et qui marchera en notre nom, dit la Trinité, dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui marchera pour amener la réalité des païens à l'obéissance de la foi? Qui le fera? Qui permettra à tous ces Goliaths qui se sont levés? Qui aura un cœur selon le cœur de Dieu? Mon fils Jérémie, il est temps que tu prennes conscience des capacités que j'ai mises en toi. Trop de troubles sont en toi, mon fils. Trop d'incompréhensions. Surmonte ces obstacles. Laisse-moi gérer tes troubles et tes incompréhensions. Marche par la foi. Quel que soit le résultat, il ne dépend pas des circonstances de l'extérieur. Ça dépend de moi parce que j'amènerai cette foi à la perfection, mon fils. Si je t'ai promis quelque chose, suis-je un Dieu qui ne répond pas aux promesses? Personne ne peut s'opposer à moi, mon fils. Personne. Personne. D'ailleurs, même pas toi, tu peux t'opposer à moi, dit le Seigneur. Tu ne pourras jamais t'opposer à moi. Il n'y a que ton reniement qui m'empêchera d'agir. Mais sinon, quel est le Goliath? M'a-t-il insulté? Jérémie, est-ce que Goliath m'a insulté, te dit Dieu? C'est toi qui l'insultes. Mais l'hardiesse que tu as eue, c'est celle qui est en toi. Et je veux que ce feu dévorant se lève et que tu entraînes beaucoup. De la même manière, ma fille, oui, Jessica, quand elle s'est levée, Myriam, elle s'est levée avec le tambourin, elle avait cette hardiesse en disant, peu importe les ennemis, peu importe l'Égypte, avec le tambourin, suivez-moi, allons et louons Dieu, parce que la victoire est à nous. Alors enchaîne cette vie de victoire. Saisis le tambourin prophétique et ouvre ta bouche quand je te le demanderai, afin que tu proclames la parole prophétique et qu'elle fasse un effet, parce qu'aucune de mes paroles ne revient à moi sans avoir produit son effet. Il y en a beaucoup ici qui, année après année, connaissent leurs talents, leurs dons, leur ministère. C'est pour cela que Dieu m'a demandé de commencer en disant « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas ». Parce que, je vous le dis, l'équipe qui était présente là, elle doit être ointe. Entendez-moi, l'équipe que vous formez, elle a besoin, comme David, d'être ointe. Parce que l'onction fait peur à l'ennemi. Mais cette onction, c'est simplement l'obéissance au Saint-Esprit. puisqu'encore une fois, nous ne sommes que des instruments. Maintenant, qui veut devenir un champion ? Moi, je m'arrête là. Pour ceux qui doivent rentrer, parce que l'heure est tardive, vous pouvez y aller. Mais s'il y en a certains qui veulent répondre, je pourrai prier pour eux. Parce qu'il est dit, par rapport aux prophéties que tu as reçues, mon fils, accomplis le bon combat de la foi. Tous ceux qui ont reçu une prophétie concernant la vie, une promesse d'être des instruments puissants entre les mains de Dieu, c'est pour vous que je veux prier ce matin. C'est pour vous. Afin que ce qui lie la foi et l'espérance, vous savez ce que c'est ? La liaison entre la foi et l'espérance, c'est la persévérance. Et il faut persévérer, peuple de Dieu. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Si tu es un David, loin de Dieu, lève-toi. Et si tu as besoin d'être encouragé, renouvelé, restauré, alors je prendrai ce temps pour prier pour vous.